Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur RMC. 9h08 en ce dimanche 29 novembre. On salue tous ceux qui nous écoutent en direct en ce dimanche matin, et puis tous ceux qui ont l'habitude d'écouter le replay dans la semaine de votre auto. Vous êtes très nombreux à le faire. On vous salue. Jean-Luc, pour cette dernière partie, tout à l'heure, un spécial dashcam, donc avec le porte-parole de Pionnier. On va le retrouver dans quelques instants. Tout à l'heure, notre question, pas si bête, les voitures électriques vont-elles finir par bloquer les autoroutes? Notre rendez-vous sur le vif, comment éviter les arnaques sur les voitures d'occasion pendant la crise du Covid-19? Et puis, vos questions d'ici là, bien sûr. Hein. Toutes vos questions auto au 32-16. On repart avec Dominique qui est là. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour François, merci de m'accueillir sur l'antenne.
Bonjour Dominique, vous êtes cannoise.
Je suis cannoise, heureuse de l'être, il fait un temps magnifique.
Ah ben ça j'imagine, il fait toujours beau à Cannes. Voilà.
Il fait très très souvent beau, la ville est magnifique.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Parlez-nous de votre Daihatsu.
Ah oui, ah, je peux vous en parler parce que c'est vraiment une œuvre d'art. Bon, elle est très très vieille maintenant, elle a 198 000 km. Mais je l'ai gardée parce que c'est une voiture très pratique, c'est une citadine et je suis très très souvent en ville.
Oui, c'est la Daihatsu Trévise, hein, c'est ça. Hein.
Ouais, ça ressemble à un mini taxi anglais, cette voiture. Ouais, c'est vrai qu'elle est extrêmement originale. Elle est un peu, vous savez que François aussi, il est Trévise lui, mais ça s'écrit pas pareil.
Ah, Trévise, en deux d'accord. Mots. Oui. Oui, c'est bien Dominique, vous rigolez, vous le soutenez, c'est bien, c'est sympa.
Bien sûr,
il faut toujours.
J'adore vous écouter le week-end, c'est très très agréable.
Ah, c'est gentil,
donc
merci.
Cette voiture, c'est vrai, est très agréable par rapport à une Mini par exemple, ou surtout à la Fiat 500, elle a une habitabilité beaucoup plus agréable. Oui. Bon, maintenant, elle est très vieille, donc je voudrais la changer et je me pose pas mal de questions.
Bon, en même temps, vous voulez la changer, Dominique, mais c'est super fiable. Hein. Le moteur, c'est le petit moteur Daihatsu, là. Je pense que c'est un des petits moteurs essence les plus fiables qu'on puisse trouver.
Donc, je n'ai eu aucun problème. Ouais. Elle démarre et surtout, la boîte automatique est géniale.
Ouais, c'est
et pour
une
moi,
vraie
c'est
boîte automatique.
Ouais. Je ne passerai plus jamais une vitesse de ma vie. Donc, je veux retrouver une voiture qui est le même type de boîte de vitesse automatique. Je ne veux pas d'à-coup. Et là, franchement, la boîte est formidable.
Alors, donc vous voulez changer la voiture et vous vous dites, bah il y a pas, alors il y a pas d'équivalent direct hein, de cette Daihatsu Trévise. Bon, il y a des modèles approchants. Vous avez vu quoi, vous? Qu'est-ce qui vous plairait? Je vais vous dire après.
Alors, moi, j'ai besoin d'une voiture, une citadine, puisque je fais pratiquement que de la ville, mais une ou deux fois par an, bah, je vais en Espagne voir mon frère. Vous savez qu'à Cannes, on est à côté de l'Italie, donc j'y vais faire un petit tour de temps en temps. Voilà, mais je ne veux pas une grosse voiture parce que c'est impossible de se garer, de stationner. Et je suis souvent seule avec ma fille. Donc, je n'ai pas plus besoin maintenant d'avoir une 5 portes. Donc, il me faut une petite citadine. Et j'ai fait le tour des concessionnaires et je trouve les voitures avec des looks très agressifs. Enfin bon, il y a très peu de voitures qui me plaisent, pour tout vous dire.
D'accord. Alors, dans le très peu, il y a quoi?
Alors, moi, je me suis renseignée quand même chez Renault pour une Zoé, au départ pour la Zoé, parce qu'il faut quand même prendre le virage écologique, c'est très important. Et c'est vrai, comme je vais être en copropriété, la vendeuse me l'a déconseillé en me disant que ça va être compliqué pour avoir les branchements et tout ça. Bon. Après, il reste la
attendez.
Frigo.
Tout dépend de la nature de l'immeuble. C'est un immeuble récent ou il y a des gros travaux à faire?
Non, c'est un immeuble des années 70.
Ah ouais, bon, donc oui, effectivement, ça risque d'être problématique. Vous savez qu'on peut pas vous refuser le droit à la prise, mais vous allez être obligé d'attendre l'Assemblée Générale pour faire passer ça. Et puis, ça risque malheureusement, s'il faut tirer un câble depuis l'alimentation de l'immeuble, ça risque de vous coûter cher. Et vous aurez un compteur séparé.
Malheureusement, oui, voilà. Alors après, je me suis rapprochée de la Twingo, parce que j'en ai eu 3 de Twingo, mais la première génération, j'étais très jeune. Et là, c'est pareil.
Mais vous êtes toujours très jeune, Dominique.
Bien sûr, cher ami. Mais c'est vrai que j'ai deux dadas. C'est la boîte automatique, mais je voudrais aussi un toit ouvrant. Parce que quand on est dans le sud, il fait toujours très chaud. Et mettre un petit coup de clim, c'est pas très intéressant. Alors que si on ouvre le toit, ça ventile très, très vite.
D'accord.
Et pareil, pour avoir fait beaucoup de concessions, les toits ouvrants, on en fait de moins en moins.
D'accord.
Alors, donc là, je me suis intéressée, moi, à la Twingo, dernière génération, ouais. Mais alors ils n'en font pratiquement plus, les toits ouvrants, ils ne le font plus non plus, et ils vont faire pratiquement que de l'électrique.
Oui, enfin non, ils ne vont pas faire pratiquement que de l'électrique. Vous avez, avec le moteur thermique, le TCE 90 ou 95 chevaux. Alors, vous la voulez neuve, la voiture ?
Alors, j'ai un budget entre 16 et 18 000, voilà, donc...
Oui, bon, une vous pouvez avoir une ouais, neuve ou une occasion récente, effectivement. Avec la boîte d'essai, l'avantage de la Twingo, si vous faites beaucoup de villes, c'est que ça tourne dans un mouchoir de poche, hein. C'est vraiment une voiture très,
oui.
très maniable.
Ouais, je sais que c'est une voiture...
Et puis, à l'intérieur, c'est vrai qu'elle est, elle est joyeuse. La planche de bord oui. est sympathique, voilà. Bon, après les défauts, pour faire de la route... c'est pas la plus confortable de la catégorie. Le coffre est quand même pas très grand. En plus, oui. quand vous transportez des surgelés, il y a le moteur en dessous, donc faut faire attention. Il n'y a pas une bonne modularité sur cette voiture. Quand on a connu, vous me dites, j'ai eu les premières Twingo, oui. où le gros avantage, c'était la banquette qui coulissait, une modularité qui était vraiment très intéressante. Donc ça a disparu malheureusement sur la dernière génération. Mais surtout, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que même si les toutes dernières sont un peu plus confortables que les premières, il faut faire gaffe, et en particulier aux jantes de 16 pouces. Donc, surtout pas des grosses roues si vous achetez une Twingo.
Oui, mais ça, je vous écoute. Je voilà. sais que, voilà, il faut faire très attention à la taille des jambes. Ça, je vous écoute et je le sais. Il y avait une autre voiture qui m'intéresse aussi, mais je m'inquiète parce qu'elle ne se fabrique plus. C'est la DS3 Cabriolet.
Ah oui. Ah ouais, bon, alors c'est plus sexy, une DS3 Cabriolet que voilà. Twingo.
À mon avis, on est hors budget, non ?
Non, d'occasion. Non, là, d'occasion, ça sera obligatoirement bon. Une occasion, puisqu'effectivement, la voiture a été remplacée par la DS3 Crossback, donc qui est un mini SUV.
C'est trop grosse. Voilà. Oui, c'est très gros.
Alors, c'est un peu plus gros, ouais, mais par contre, c'est plus tonique.
Donc, oui, est-ce que c'est embêtant d'acheter une voiture qui ne se fabrique plus ?
Bah
là,
non.
Ce matin, j'ai reçu une alerte pour une DS3 Cabrio 1.2 PureTech. Elle est de 2017. Elle n'a que 19 000 km. Elle est à 18 000 euros. Est-ce que c'est embêtant d'acheter une voiture qui ne se fabrique plus ?
Pas du tout, d'autant que là, les pièces mécaniques, le moteur, le 1.2 PureTech qui est sur la voiture de votre annonce, c'est un moteur qui est toujours fabriqué, qui est dans plein de modèles. Donc, les pièces mécaniques vont être disponibles. Et vous savez, maintenant, les constructeurs se sont engagés à fournir les pièces pendant 15 ans. Donc, même si la voiture a été arrêtée, ça fait 2 ans, hein, je crois qu'elle est arrêtée. Et même si la voiture a été arrêtée, ça vous laisse encore un peu de marge. Vous aurez le temps d'user la voiture avant qu'il n'y ait plus de pièces détachées disponibles. Alors, les avantages de la DS3 par rapport à la Twingo, bon, elle est plus sexy, c'est plus une mini à la française, hein, la DS3. La présentation, oui. bon, c'est plus valorisant. Alors, surtout, c'est en matière de conduite. Si de temps en temps, vous sortez de Nice de Cannes plutôt pour monter dans l'arrière-pays, ça va être vachement oui. plus sympa avec la DS3 qu'avec la Twingo, hein.
Oui, je me doute. Oui,
ben
oui.
voilà. Bon, vous avez un coffre qui est plus grand également, 285 litres.
Oui, ça c'est bien. Ouais.
Voilà. Puis bon, les moteurs. Alors le PureTech là que vous avez vu, il est en 130 ou en 110 chevaux, vous le savez ?
110 chevaux.
Ouais, bon, c'est largement suffisant. Faut faire attention sur cette voiture-là, qu'il n'y ait pas les jantes optionnelles de 17 pouces, parce qu'on perd aussi un petit peu en confort si on a les jantes de 17. Mais autrement, c'est franchement une voie. C'est plus sexy.
Oui,
c'est plus
voilà.
sexy, les... voilà.
Oui. Et puis bon, les cabriolets, si vous...
voilà.
c'est vrai que bon, on a envie de respirer un peu d'air.
C'est ça.
Et puis,
si, voilà, je trouve que c'est... si vous voulez faire chavirer les cœurs à Cannes, c'est plus la DS3.
C'est un festival, Jean-Luc,
oui, c'est
aujourd'hui.
C'est un festival
vous
à Cannes.
Vous faites vraiment
c'est normal,
un festival, oui. c'est ouais, super.
Un festival à Cannes.
Dominique, merci beaucoup.
Merci.
Et n'hésitez pas, tout comme Dominique, vous pouvez joindre Jean-Luc au 3216, l'appli RMC Direct Studio. On enchaîne avec les dashcam et on a avec nous au téléphone le directeur marketing de Pioneer France, Sébastien René. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Bonjour. Bonjour.
Bon, je ne sais pas si vous nous avez écouté tout à l'heure, on avait Rémi Jossomme, notre avocat, qui était avec nous, qui nous disait, alors lui, il est 100% partant
pour les
dashcam. Donc, on a eu pas mal de réactions, en fait, sur Direct Studio. Beaucoup de gens qui nous disaient, ouais, d'accord, ok, vous parlez de dashcam, mais qu'est-ce qu'il y a comme modèle et combien ça coûte? Alors, ben voilà, on rentre directement dans le cœur du sujet produit, cette fois, puisque vous lancez en cette fin d'année. Trois nouvelles dashcam chez Pioneer. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Alors, bon, déjà, le principe de fonctionnement d'une dashcam, c'est un dispositif qui se fixe à l'intérieur du véhicule, en général sur le pare-brise. Le but, comme l'expliquait tout à l'heure Maître Jossaume, c'est de filmer les événements autour ou même à l'intérieur du véhicule. Donc, il existe des dispositifs avec une caméra ou deux caméras.
Alors, deux caméras, donc, ça veut dire qu'on filme devant et derrière en même temps, c'est ça?
Exactement, voilà. Vous avez un dispositif à l'avant qui filme avec un certain angle et à l'arrière. Donc, plus vous avez un angle de vision important, plus vous pouvez apporter les preuves de votre bonne foi.
D'accord. Ça filme comment? C'est enregistré comment, les images?
Alors, les images sont enregistrées sur une carte SD, en continu. La vidéo ne s'arrête jamais par séquence de quelques minutes. Et donc, dès qu'un événement arrive, donc l'événement peut arriver à travers un simple appui sur un bouton ou un choc sur le véhicule, là, vous avez une séquence vidéo qui est enregistrée sur le dispositif dans un dossier particulier événement qui va permettre donc à l'automobiliste de sauvegarder cet événement en cas de litige ou autre.
Alors, attendez, donc ça filme en permanence, on est d'accord?
Oui.
Donc ça, vu que ça filme en permanence, forcément, ça efface les images les plus anciennes, on est d'accord?
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Donc,
tout dépend de la capacité de la carte que vous
mettez dedans.
Oui, d'accord. Ça fait une boucle, en fait.
Ça fait une boucle. Ça
en
fait
permanence.
Une boucle. Mais quand il y a un événement particulier, alors soit moi, je peux le valider comme un événement particulier, soit c'est automatique, et là, c'est mis dans un fichier à part qui ne sera donc pas effacé si je continue à enregistrer, on est d'accord?
C'est exactement ça. C'est donc positionné dans un fichier. Alors, si vous retirez sur les dispositifs Pioneer, vous avez un fichier événement, tout simplement. Et donc, ce fichier va stocker la vidéo. Alors, quelques secondes avant l'événement et quelques secondes après l'événement.
D'accord. De façon automatique. C'est-à-dire, si j'ai un choc, par exemple, quelqu'un rentre dans ma voiture, ce fichier-là, hop, il sera mis de côté automatiquement.
C'est exactement ça.
Il y a quoi? Il y a des accéléromètres dans la caméra? Comment ils déterminent qu'il y a un choc?
Il y a tout simplement un capteur de choc, trois axes.
D'accord.
Un capteur qu'on utilise spécifiquement pour ce genre de dispositif. Donc un choc, alors qui est évidemment réglable, ça peut être un choc important ou même un petit choc. Alors si vous réglez votre caméra de manière trop sensible, c'est sûr qu'un ralentisseur peut déclencher.
Ça va à chaque fois enregistrer sur les ralentisseurs. Donc il y en a qui vont enregistrer en permanence, ils vont en perdre les dossiers assez rapidement. dites-moi, comment on peut visionner les images? Parce que tout à l'heure, on évoquait avec Rémi le fait de, éventuellement, si on est arrêté par la marée chaussée, qu'on est accusé par exemple d'avoir grillé un feu rouge alors que le feu était orange, de pouvoir visionner les images. On peut les visionner et de quelle façon?
Alors vous avez trois manières. Alors sur les dashcam Pioneer, vous avez deux modèles qui possèdent un écran, donc on peut le visionner directement sur l'écran de la caméra.
D'accord.
Ou alors, tous nos dispositifs sont équipés du Wi-Fi. Le Wi-Fi va permettre une connexion de votre smartphone sur la caméra. Donc, en temps réel, avec le débit du Wi-Fi, vous pouvez aussi voir ce qui se passe sur la caméra.
Et rapatrier la vidéo aussi sur le smartphone, c'est possible?
Pardon?
Est-ce qu'on peut rapatrier la vidéo sur le smartphone,
oui,
la stocker
fait,
sur le smartphone? D'accord.
Le but, c'est exactement ça. C'est de pouvoir, comme vous dites, rapatrier sur votre smartphone, sauvegarder votre vidéo, et en plus votre vidéo est horodatée, c'est-à-dire que chaque vidéo que vous enregistrez, on l'enregistre avec le nom et la référence du dispositif, l'heure, la date exacte et les coordonnées GPS.
Et la vitesse du véhicule également.
Et la vitesse du véhicule.
D'accord, donc ça permet, c'est une preuve face à un tribunal, c'est une preuve puisque tous ces éléments ne peuvent pas être modifiés, on est bien d'accord?
Impossible.
D'accord. Sébastien, on a deux questions.
Oui.
La première, est-ce que dans certains pays d'Europe, il est interdit d'utiliser une dashcam?
Alors, je ne connais pas la législation dans chaque pays. Je sais qu'en Allemagne, c'est un peu plus compliqué qu'en France ou dans les pays anglo-saxons. Mais toujours est-il que le principal pour notre marché, toujours est-il que c'est
autorisé en France.
Légal,
on a des auditeurs qui nous disait en Espagne c'est interdit, c'est une amende. Mais ça se démonte facilement une dashcam qu'on installe a posteriori comme celle-là.
Alors vous avez deux types de dispositifs, des dispositifs que j'appellerais plug and play qui se fixent de manière très simple avec une ventouse, un petit peu comme un
GPS,
des petits GPS, voilà, qui se connectent avec une prise à une cigare. Donc ça, c'est des systèmes plug and play. Et des systèmes un petit peu plus évolués, nous avons un modèle qui est donc le modèle 700 de chez Pioneer, qui lui est complètement connecté et intégré avec deux caméras et qui est connecté qui n'est pas connecté sur l'allume-cigare, mais qui est connecté sur la batterie du véhicule et là complètement intégré dans l'environnement du véhicule.
D'accord. Dites-moi, ça enregistre également quand le véhicule est à l'arrêt, c'est-à-dire si je suis garé sur un parking de supermarché et que quelqu'un tape ma voiture, je vais avoir la vidéo de cet accident?
Alors vous avez deux fonctions bien particulières. La première qui est la fonction mode parking. Alors beaucoup de dispositifs de caméras embarquées ont le mode parking. Ce mode parking fonctionne sur la batterie du dispositif, donc ça fonctionne quelques minutes. La particularité du modèle dont je viens de parler, la 700 de chez Pioneer, c'est qu'elle est connectée sur la batterie du véhicule. Donc elle va rester en veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dès que vous avez un choc, même au bout de quelques semaines, si vous garez votre voiture dans un aéroport et vous partez longtemps en vacances, vous allez pouvoir enregistrer les événements en cas de problème.
D'accord. Sébastien, pas mal de questions aussi sur Direct Studio concernant les motos. Est-ce que vos dashcams sont compatibles moto?
Alors pour le moment non. Alors c'est un nouveau marché en France, hein, bien évidemment. Et donc pour le moment on est concentré sur les automobiles traditionnelles. En ce qui concerne les motos, c'est un virage qu'on veut prendre aussi, puisque il y a une demande très particulière. Par contre là, les dispositifs de dashcam pour moto sont nécessairement étanches,
oui.
Beaucoup plus petits et ce sont des dispositifs qui vont coûter un petit peu plus cher et qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille, bien évidemment.
Et ça coûte combien un dashcam chez Pioneer?
Alors chez Pioneer, une dashcam, vous avez des dashcams à 89 euros l'entrée de gamme, qui est un tout petit modèle qui est une des plus petites du marché, jusqu'à 200 euros pour le modèle complètement intégré.
D'accord. Et une dernière question. Ce qui est important sur une dashcam, parce qu'on voit souvent la qualité des images est parfois moyenne, là, vous enregistrez en HD, c'est quoi la définition?
Oui, alors, toutes nos caméras enregistrent en HD, d'accord. Mais un des éléments les plus importants, c'est quelle est la sensibilité dans des conditions
De basse lumière.
De faible luminosité. Ouais. Voilà,
d'accord.
Voilà. Si vous voulez enregistrer ou stocker de l'information, notamment lire une plaque d'immatriculation dans un parking, vous pouvez avoir la meilleure résolution du monde. Si vous n'avez pas un capteur capable de lire dans de faibles luminosités, ça servira strictement à rien. Donc, nous, on utilise des dispositifs sur les modèles plus haut de gamme, des capteurs professionnels qui sont capables de lire vraiment des informations, même dans des conditions de faible luminosité.
Merci beaucoup Sébastien René pour toutes
Merci
ces précisions.
À vous.
Merci.
Directeur marketing de Pioneer France. Alors on a évoqué Pioneer, mais il y a évidemment
énormément de marques
qui proposent des dashcams, mais notamment moins chères aussi. Mais bon, c'est vrai que Pioneer a la particularité d'être une marque qu'on connaît. Jean-Luc, on revient dans un instant. Jean-Michel sera là. Il va nous parler de sa Hyundai Ioniq de 2017. On retrouvera aussi notre question pas si bête. À tout de suite, on revient après la météo.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, l'automobile, 9h31. Jean-Michel est avec nous au 32-16 et puis juste après, ce sera notre question pas si bête. Jean-Michel, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bienvenue
Jean-Michel.
Jean-Michel de Strasbourg.
C'est ça.
Et on vous écoute.
Donc je vous appelle, j'ai une question, j'ai acheté une Hyundai Ioniq de 2017 suite au conseil de Jean-Luc plus tôt dans l'année. Et j'en suis très satisfait. Et
bon, tant mieux, sinon François vous rembourse, hein. Vous savez c'est le satisfait ou remboursé par François.
Et bien c'est pour ça que je vous écoute tout le temps d'ailleurs.
Donc
j'ai une question, parce qu'en fait j'ai remarqué on va dire un peu tard, c'est que la charge homologuée sur le toit était de 0 kg sur mon modèle 2017, alors que par exemple sur la modèle 2018 il semblerait que ce soit homologué pour 70 kg. Et donc je voulais vous poser la question, quels seraient les risques ou est-ce que ce serait dangereux d'acheter une barre de toit compatible, parce qu'on en trouve quand même pour les 2017.
Alors non. Malheureusement, non, parce que l'homologation, en fait, il y a eu entre-temps, c'est vrai, alors Hyundai a homologué la Ioniq où il y avait 100 possibilités au départ. Non seulement de tracter, c'est-à-dire on peut pas mettre de boule derrière pour une remorque ou même pour un porte-vélo, et 0 kg sur le toit. Donc c'est vite remonté comme un problème, et donc ils ont modifié la voiture, et sur la version 2017, il y a un renforcement du toit qui permet donc de mettre des barres et jusqu'à 70 kg de charge, mais si vous faites ça sur votre voiture, elle est encore sous garantie, puisqu'elle avait une garantie 5 ans. Oui. Vous avez toutes les chances de tordre le pavillon et la garantie ne s'appliquera pas puisque c'est 0 kg en homologation. Donc je vous déconseille formellement d'essayer de mettre une galerie sur cette voiture-là.
Donc il y a eu des modifications structurelles.
Ouais, il y a des modifications structurelles. Ouais, il y a un renforcement qui a été fait. Voilà. Donc c'est, okay. C'est malheureux. Hein. Vous auriez une 2018. Ok, ça passe, mais sur la vôtre, c'est pas possible. Vous voulez mettre quoi dessus d'ailleurs?
Bah, c'est des vélos.
Ah, des vélos. Ah ouais, non, mais c'est, alors là, c'est effectivement, ouais, effectivement, c'est pas la galère. C'est, ou alors vous la revendez, puis vous prenez une 2018.
Oui, ah. Bon, je viens à peine de l'acheter, donc c'est
un peu dommage. Ouais, ouais, mais c'est vrai que.
Bah, je vais peut-être faire appel à la garantie Jean-Luc, hein.
Oui, alors Jean-Luc. Non, mais François vous rembourse la voiture. Puis
non, il a une garantie Jean-Luc. Moi, la garantie François, c'est autre chose. Je suis désolé.
Il y a la garantie Jean-Luc remboursée par François, je crois.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est lui qui a le portefeuille ici.
C'est, alors, c'est la plus compliquée, celle-là.
Très compliquée à mettre en œuvre. Non, mais malheureusement, alors c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on regarde pas quand on va acheter un véhicule. On regarde pas est-ce qu'il y a possibilité. Alors, si on a déjà des remorques, en général, on regarde si on peut atteler effectivement la remorque au véhicule. Mais le toit. Personne va imaginer qu'un véhicule aura zéro de charge possible sur le toit. Ça, c'est clair. Donc, on est en général surpris. Et c'est ce qui a fait que Hyundai a modifié la voiture, d'ailleurs, par la suite. C'est pour cette raison-là. Mais vous n'avez pas de peau. Vous avez pris le dernier modèle qui ne peut pas transporter quelque chose sur le toit. C'est moche. Mais
effectivement.
Et alors, soit vous arrêtez le vélo, soit vous changez de voiture.
Oui, je ne sais pas.
Et votre femme n'a pas une autre voiture sur laquelle vous pourriez transporter les vélos? Ou vous transportez les vélos loin?
C'est notre seule voiture, pour les vacances.
Ouais. Ah oui. Ah, franchement, et vous n'avez pas un ami qui peut passer vous prendre? Vous faites du vélo tout seul?
Non, mais c'est juste pour les vacances ou quand on part un peu plus loin.
Ouais. Bah non, malheureusement,
c'est plus compliqué.
Non, malheureusement, là, je vous déconseille totalement d'essayer les barres de toit et de mettre les vélos dessus.
Eh bien, j'ai bien fait de vous appeler.
Voilà, Jean-Michel. Bon,
je suis franchement désolé, hein. Je suis désolé pour vous. Hein. Je vous dis, la solution, c'est peut-être de revendre le véhicule. Vous n'allez pas perdre beaucoup, hein. Revendre la voiture et reprendre une 2018, remettre un petit budget et reprendre une 2018.
Merci Jean-Michel pour votre appel. 9h36, on retrouve maintenant la question pas si bête.
Si je vous dis, con vous avez l'air, c'est pas français.
RMC, votre auto.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
Avec cette question, Jean-Luc, les voitures électriques vont-elles finir par bloquer les autoroutes? Alors, mais qu'est-ce qui vous est arrivé?
C'est pas moi, en fait. C'est un auditeur qui m'a donné ça et c'est franchement très malin ce qu'il a mis. Alors, c'est drôle. C'est drôle et en même temps, ça fait peur. Vous allez voir. On va imaginer. Alors, imaginons l'autoroute A6 un jour de départ en vacances. C'est 6000 voitures par heure environ, l'autoroute A6 un jour de départ en vacances. On va dire, pour simplifier, c'est ce qu'a fait notre auditeur qui m'a donné tous ces chiffres-là. On va dire 5000 voitures pendant 20 heures. 5000 voitures pendant 20 heures, ça fait 100 000 voitures par jour, en admettant que sur ces 100 000 voitures par jour, on ait un quart de véhicules électriques. Ce qui va arriver dans un avenir, c'est aujourd'hui, la part des ventes, c'est ça, hein, sur les véhicules électriques. Imaginons qu'on soit projeté dans 20 ans, et donc on a un quart du parc qui est en véhicule électrique. Il y a 40 millions de voitures en France, on a 10 millions de voitures électriques en France.
Petit bémol, on peut imaginer que toutes les voitures électriques ne vont pas aller sur l'autoroute parce que ce sont des véhicules qui ne sont pas faits pour ça.
Pas forcément, mais là, on est dans 20 ans, les gens voyagent avec leur voiture électrique. Admettons, ils ont tous des Tesla. Parce qu'entre-temps, la France est devenue très très riche et tout le monde
roule en Tesla.
Voilà, les Tesla ont beaucoup baissé en prix et on est beaucoup plus riche qu'avant. D'accord. C'est vraiment un scénario
c'est faisable.
De science-fiction. Mais voilà. Donc, on a 100 000 voitures par jour. Un quart de ces voitures vont devoir faire une recharge. Alors, 300 km, on va imaginer la première recharge à 300 km, on est sur l'autoroute, donc ça consomme plus, et ils vont ensuite devoir faire une autre recharge 250 km plus loin, parce que quand on fait une recharge sur l'autoroute, on ne charge pas à 100%, on charge à 80%, parce que ça prend beaucoup moins de temps, sinon on prend les 20% restants, on va mettre autant de temps à charger les 20% restants que les premiers 80%, donc c'est idiot. Donc, on a quand même déjà pas mal de voitures qui vont devoir recharger. Alors, supposons qu'une charge rapide prend 20 minutes. On a dit, on a des Tesla, hein, une charge rapide, 80%, 20 minutes. On peut charger donc 3 voitures par heure. Jusque-là, vous me suivez. Sur un chargeur, donc.
Par borne.
Voilà, par borne. Voilà. Sur un chargeur, il passera donc en 20 heures x 3, 60 voitures par jour. On est d'accord. 60 voitures par jour. Multiplions le nombre de chargeurs par station par 100, par exemple. Imaginons, il y a 100 chargeurs. On est dans du fantasme. Il passera donc en 20 heures, 60 voitures fois 100 chargeurs, c'est-à-dire 6000 voitures. Bon, il reste quand même, on a 25 000 voitures électriques qui circulent, 25 000 moins 6000, il y a 19 000 voitures électriques qui vont faire la queue à la borne de charge dans les jours qui suivent, parce qu'il va falloir, et ces voitures, on va pas...
Tout dépend combien de kilomètres elles font sur l'autoroute.
Non, mais si on a dit, ils partent de Paris, ils font 300 km, et à 300 km, ils doivent charger. Bon, on a 19 000 voitures qui attendent pour charger. Ils vont attendre plusieurs jours. Ouais. Donc, ils vont bloquer l'autoroute. Puisqu'on ne peut pas stocker 19 000 voitures dans le parking. On est bien d'accord. Donc, on est dans une situation. Alors, vous allez me dire, c'est grotesque, on n'arrivera sans doute jamais à une situation comme ça. Mais dans l'absolu, tous ces chiffres, ils sont bons. Donc. Ça met l'accent sur quoi, ça? Parce qu'aujourd'hui, on dit il faut 20 minutes pour charger véhicule à 80%.
C'est la durée de la recharge qui est trop longue.
Exactement.
Il faut que ça soit plus rapide.
Il faut que la durée d'une recharge de voiture électrique soit équivalente au plein d'un véhicule thermique.
C'est-à-dire que si on réduit le temps de charge et qu'on augmente l'autonomie des véhicules, ça serait l'idéal. Il faudrait arriver
500 km sur autoroute
au schéma de la voiture thermique, en quelque sorte.
Complètement, c'est-à-dire 500 km sur autoroute.
Et 5 minutes de plein.
Et entre, on va dire, on peut aller à 7, jusqu'à 10 minutes de plein, ça serait encore gérable, quoi.
Oui.
Mais effectivement, 5 minutes de plein. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est pas possible. C'est pas du tout du fantasme. Cette semaine, vous savez, on a parlé de Nahua Technologies, cette start-up française qui a mis au point des électrodes pour batterie à nanotubes de carbone. J'étais avec le patron cette semaine, on discutait de ça. Une des applications de cette technologie qui permet de multiplier par 10 la puissance d'une batterie lithium-ion, de multiplier par 3 la capacité. Tout ça avec un prix moins cher qu'une batterie actuelle, ça va être justement de pouvoir stocker l'énergie pour les bornes de recharge. C'est-à-dire qu'on aura en permanence des bornes de recharge qui vont être alimentées, alors soit par du renouvelable, c'est ce qu'on a intérêt à faire d'ailleurs, et elles vont stocker, ça va être du stockage intermédiaire, ce qui permettra de répondre à des grandes puissances, c'est-à-dire on pourra recharger plein de voitures les unes derrière les autres. Vous allez me dire, si ça dure pendant une semaine que les gens font la queue pour faire de la charge, évidemment les batteries vont être à plat, mais c'est un cas de figure qui se produira assez rarement, voire jamais. Et donc la solution, c'est ça, c'est d'avoir demain des bornes de charge capables de délivrer 350 kW de puissance. Aujourd'hui, la charge rapide, c'est 50 kW. Les bornes Tesla les plus récentes délivrent jusqu'à 250 kW. On a le réseau Ionity qui délivre jusqu'à 350 kW. Il faut que demain, 350 kW soit la norme. Ça veut dire, je m'arrête avec ma voiture électrique et je fais le plein très rapidement. Alors, il y en a encore qui vont dire, oui, mais vous imaginez demain, si toutes les voitures sont électriques, il faut 350 kW de puissance pour faire le plein. Le réseau va sauter. C'est pour ça qu'il faut des batteries intermédiaires pour pouvoir faire de la charge avec du renouvelable qui, lui, en général, est gaspillé quand on ne l'utilise pas tout de suite. Le point, c'est la charge des véhicules et le stockage de l'énergie intermédiaire.
Petite précision, tiens, tout à l'heure, on parlait de la Ioniq de notre auditeur qui ne pouvait pas accrocher un porte-vélo. Visiblement, Patrick nous dit, pour une Ioniq de 2017, j'ai eu une boule porte-vélo achetée en Belgique et montée par Hyundai.
Montée par Hyundai, oui. Il perd la garantie s'il a un problème avec sa voiture. C'est ça le souci.
Ouais.
Et comme la garantie Hyundai est très intéressante, c'est 5 ans, kilométrage illimité. Et vous perdez le bénéfice de la garantie s'il y a un problème. Alors, on prend sans doute moins de risques à mettre le crochet et à mettre un attelage vélo sur le crochet que mettre quelque chose sur le toit.
Exactement, ouais. On va revenir dans un instant, Jean-Luc. Nicolas sera avec nous qui désire acheter un véhicule neuf et il hésite évidemment entre plusieurs modèles. On va faire le point avec lui. Et puis, comment éviter les arnaques sur les voitures d'occasion pendant cette crise de Covid-19 ? Ce sera notre rendez-vous sur le vif. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le retour et la fin de ce week-end des experts, l'automobile. Et à 10h, vous retrouverez les paris RMC. Dans un instant, notre rendez-vous sur le vif. Mais auparavant, Nicolas nous attend. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
On vous écoute.
Alors voilà, je souhaite changer mon véhicule pour un achat neuf. Et j'avais une hésitation entre une Mégane Elytra 3 TCE 115 une 308 Allure 110 ou 130. En sachant que j'ai déjà vu la Mégane, que j'ai déjà eu une proposition pour la Mégane, que mercredi je vais voir à 308.
D'accord.
Et j'ai alors je penche pour l'esthétisme de la 308, mais pour la motorisation de la Mégane.
Comme moi. C'est exactement ce que j'allais vous dire juste derrière. J'allais vous dire, vous achetez une 308 et vous montez un moteur de Mégane dedans. Voilà. Et vous aurez le modèle parfait.
Bon, et après, j'ai une question de pratique. C'est que moi, je mesure 1m95. Mon épouse mesure 1m52.
Ah oui. Ah oui.
Et on a essayé plusieurs fois des allemandes, mais le problème c'était les pédales d'embrayage pour madame. Savoir si là ça posait pas de problème et tout ça.
Alors là, malheureusement, ça je peux pas vous dire. Faudrait que je me fasse couper les jambes pour quand je teste voilà, les voitures pour savoir si quoi qu'elles sont pas très longues, mais là si non je peux pas vous dire. En fait, ce qui compte pour vous c'est d'avoir une grande amplitude de réglage de siège.
Oui.
Ah ouais, ben
et
ça
puis,
c'est
surtout au niveau de la voiture, de l'habitacle et tout ça.
Ouais, ben alors ça malheureusement là j'ai pas de réponse parce que c'est un truc qu'on teste jamais quoi. Et c'est il faut que vous alliez tous les deux dans une concession, elles sont réouvertes depuis hier et que vous montiez dans la voiture et voir si l'un et l'autre arrivent à s'installer correctement au volant. Je pense que le vrai critère de choix il va être là. Sinon vous avez raison hein. C'est vrai que la 308 est un peu plus sexy esthétiquement et surtout la présentation est plus moderne à l'intérieur. Bon la nouvelle vous avez vu hein, il y a la nouvelle Mégane est quand même à progresser aussi de ce côté-là. L'intérieur est un peu plus sympa que sur l'ancienne. Bon, après, sur la motorisation, c'est vrai que le 1 litre 3 TCE, à la fois, est plus économique en carburant et plus fiable et plus agréable à utiliser que le 1 litre 2 PureTech, qui est pourtant un bon moteur aussi, mais qui a eu quelques soucis de fiabilité.
Et oui.
Voilà. Donc, moi, je serais plus Mégane. Alors que je préfère la 308, vous voyez.
Hein, oui, c'est, ça, quoi c'est ce qu'on me dit, oui.
Bah oui.
Mais en fait, j'ai déjà eu les deux anciens modèles en 308 et en Mégane, et j'ai toujours trouvé la motorisation de la Mégane beaucoup mieux chez Renault que chez Peugeot.
Bah voilà. Mais là, ce moteur-là qui a remplacé le 1 litre 2 TCE qui était miséreux, est très bien, comme c'est souvent le cas. Ce que j'appelle ça l'effet de balancier, moi. Quand on bascule d'un côté, le retour de balancier fait qu'on se retrouve à l'extrémité de l'autre côté.
Mais disons que la 308 est plus simple à l'intérieur.
Ah oui.
Plus épurée.
Oui.
Elle fait bon. Moins complexe que la Mégane.
Vous savez quoi, c'est votre femme qui va choisir au final. Donc,
c'est moi qui fais le chèque.
Allez chez Peugeot, allez chez Renault et asseyez-vous déjà l'un derrière l'autre dans la voiture. Si ça se trouve, il y en a une des deux où elle ne pourra pas toucher les pédales ou il y en a une des deux où vous ne trouverez pas de place confortablement.
Alors, on a déjà vu la Renault, on a peut-être déjà une proposition de chez Renault et on attend un peu la proposition de la 308.
D'accord. Bon, je peux pas vous aider plus que ça.
D'accord.
Parce que le critère pour vous qui va être définitif, malheureusement, j'ai pas d'avis sur la question.
Merci Nicolas. Allez Jean-Luc, on enchaîne avec notre rendez-vous sur le vif. Comment éviter les arnaques sur les voitures d'occasion pendant la crise, cette crise de Covid-19 ? On en parle avec notre invité Alexis Arnist. Okay. Bonjour Alexis.
Bonjour Alexis.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Co-fondateur de Trust2, c'est comme ça qu'on dit ?
Trust2, exactement. Voilà. Trust2 à l'anglaise.
Qu'est-ce que c'est que Trust2 ?
Donc en fait, Trust2, c'est la volonté de vouloir sécuriser les acheteurs de voitures d'occasion partout aujourd'hui en France, Belgique, Suisse, Allemagne et Luxembourg. Très simplement, en fait, on propose à n'importe quel particulier d'être accompagné par son conseiller personnel de la voiture d'occasion. Donc ce sont nos spécialistes automobiles Trust2 qui se déplacent lors d'une visite de voiture pour effectuer une inspection complète sur 200 points de contrôle.
D'accord. Alors ces spécialistes, c'est qui ? Ça peut être François, ça peut être moi ou c'est vraiment des professionnels de l'automobile ?
Alors ça pourrait être vous. En réalité, nous on a un ingénieur auto en interne donc qui fait les recrutements de ces spécialistes. Aujourd'hui on en a 550. L'idée c'est qu'on double voire qu'on triple cela en 2021. En fait, on les recrute sur des critères bien spécifiques de compétences, de connaissances sur le marché de l'occasion. Donc, c'est principalement des ingénieurs automobiles, des techniciens, des mécaniciens, des chefs d'atelier mécaniques qui savent vraiment déceler tous les vices cachés, les pièces d'usure, etc. pour s'assurer en fait à nos clients de ne pas avoir de mauvaises surprises après l'achat de la voiture d'occasion.
C'est-à-dire c'est un job qu'ils font en plus de leur job de tous les jours, on est d'accord?
Exactement. En fait, on a créé une nouvelle activité économique qui est donc l'inspection de voitures en indépendant.
Si quelqu'un veut acheter une Fuego, François peut aller avec lui et comme il connaît bien la Fuego, il lui donne son avis et ça lui permettra de pouvoir se racheter un paquet de cigarettes supplémentaires à la fin du mois, c'est ça?
Bah en fait, c'est exactement ça, si vous voulez. Aujourd'hui, le contrôle technique, c'est bien, c'est un document légal, mais en fait, ça n'assure pas les acheteurs, aujourd'hui, les particuliers, de faire des mauvaises affaires, d'être victime d'arnaques, de vendeurs malhonnêtes. Et bien en fait, nous, très simplement, on est là pour pallier à ça.
Comment on prend contact avec vous et combien ça coûte l'aide de ce spécialiste qui va vous accompagner dans votre choix?
Alors, en fait, il suffit d'aller sur trustoo.fr, donc c'est trust2o.fr, pardon. Vous pouvez nous appeler, on a un numéro standard, on est ouvert 7 jours sur 7 pour pouvoir déplacer nos spécialistes le plus rapidement possible. Si jamais vous avez vraiment repéré une bonne affaire, eh bien on fait en sorte que vous ne la ratiez pas. Vous faites votre petite demande sur le site et ensuite on vous recontacte pour vous confirmer le déplacement du spécialiste avec le prix. Donc ça dépend, une citadine c'est 149 euros, une berline c'est 199 euros l'inspection et ensuite les SUV, véhicules collection, etc. on est à 249 euros. Voilà, prix unique sur trois catégories de véhicules.
Merci beaucoup Alexis. Trustoo, ça s'écrit TRUSTOO. Jean-Luc, l'actu de la semaine dans le monde de l'automobile avec les forces de l'ordre qui vont rouler en Peugeot 5008.
Ouais, on serait presque tenté de dire qu'ils ont de la chance, nos policiers et nos gendarmes, puisque le ministère de l'Intérieur vient de commander 1263 exemplaires du grand SUV de Peugeot. Ce qui est intéressant, c'est que cette variante à 5 places n'est pas équipée d'un moteur diesel, mais d'un moteur essence PureTech de 130 chevaux. Ça y est, ils montrent l'exemple maintenant.
C'est bien. Évidemment, l'une des informations de la semaine, c'est la mort de Maradona. Mais quel rapport avec l'émission Votre Auto, Jean-Luc?
Ceux qui ont admiré le football savent, le footballeur, on savent sans doute moins que c'était aussi un grand amateur d'automobile, Maradona, au goût plutôt éclectique d'ailleurs. Hein. François, vous avez un point commun avec lui, c'est qu'il aimait la Renault Fuego.
Ah.
Il en a même possédé une, c'était une version GTA Max avec un moteur de Ligue 2. Je crois même qu'elle était rouge.
Hein, Diego dans la Fuego.
Diego dans la Fuego, c'est ça. Voilà. Alors pour ce qui me concerne, on va dire que Maradona avait des goûts un peu plus raffinés également, puisqu'il aimait les Ferrari noires. Et moi, j'ai une Ferrari noire.
Vous avez une Ferrari noire.
Ouais, exactement.
Pas de même prix que la Fuego.
Joker.
Et Porsche pour terminer qui bat un record de l'inutile.
Vous savez sans doute ce que c'est le drift, hein, c'est rouler en dérapage le plus longtemps possible. Le constructeur allemand s'est attaqué.
Ce que fait Jean-Christophe Drouet dans le parking des RMC.
Oui, mais il le fait pas exprès, c'est ça la différence. Voilà. Là, avec la Taycan, c'est la berline 100% électrique de Porsche, hein, sur une piste circulaire mouillée pour l'occasion. La voiture a tourné 55 minutes, soit 210 tours et 42,171 km en dérapage, un record du monde qui fait, s'il ne fait pas avancer le Schmilbic, a au moins l'intérêt de produire des images spectaculaires qu'on peut voir sur le site internet de Porsche. Mais je pense qu'il y aura peut-être un record battu tout à l'heure dans le parking de RMC.
Avec Jean-Christophe.
Ouais, avec Jean-Christophe au volant. Voilà.
Pas impossible, messieurs.
Quel drifter ce Jean-Christophe.
Ouais, d'ailleurs, j'ai une petite question. Moi, je suis fan du Porsche Macan, dans une autre vie, j'aimerais me l'offrir. Quoi. J'ai raison.
Il faut changer de radio. Alors, il faut aller travailler.
Faut changer beaucoup de choses.
Faut changer de radio. Faut arrêter d'être bénévole, en fait.
Il est bête.
J'ai bon goût.
C'est très bien. C'est très bien, un Porsche Macan. Ouais. Mais faut changer. Plus une radio associative. Ouais. Tu fais une radio
c'est ça.
Qui embauche des gens.
Non, mais Jean-Christophe n'est pas bénévole. Il est payé.
Ah, il est payé, lui.
Bien sûr.
Mais plus pour une Fuego que pour le Macan.
Bon, les gars, je vous laisse. Jean-Luc, on se retrouve dimanche prochain.
Oui, tiens, on parlera. Comme la semaine dernière, on a évoqué les campings. Pas les campings-cars, mais les petits vans dans lesquels on peut dormir. Là, j'en ai pris un. Et franchement, c'est super sympa. Donc, on va revenir dans les années 60, à l'époque des surfeurs et qui roulaient dans les combis Volkswagen.
Les paris RMC dans un instant. Jean-Christophe, on y va?
Ben oui, on y va. Et puis, on pourra peut-être se permettre d'acheter une automobile. Voilà. Si, évidemment.
Si on gagne.
Si vous nous suivez, on va parier. On va parier sur la 12e journée de Ligue 1, notamment. Et vous allez voir beaucoup de matchs au programme, et notamment cette rencontre entre Lille et Saint-Etienne. On vous dit tout et on vous conseille au mieux, évidemment.
Bon dimanche avec RMC. On sera là le week-end prochain. Salut à tous.
Les paris RMC, 10h-11h.